Haute fréquence, Jean-Christophe Emery.
J'ai rencontré Alex Orbito en 2008, j'avais un cancer du sein. Je suis venue le voir, ça a été une révélation. J'ai eu 3 soins et ensuite je devais partir aux Philippines. Et en avril 2009, je suis allée faire mon premier séminaire aux Philippines.
Bonsoir. Le témoignage d'une femme qui s'est lancée dans la pratique de la chirurgie à main nue, une technique de guérison spirituelle qui vient de la Philippine et qui prétend sortir des énergies négatives du corps. On en saura plus dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, vers 19h40, on se tournera du côté de la France qui a connu aujourd'hui le second tour des élections régionales. On va parler du vote musulman et des ambitions d'un petit parti politique qui s'invite dans la campagne et qui cherche à thématiser des questions qui touchent à l'islam. Haute fréquence, c'est une proposition RTS Religion. Bienvenue à vous. On s'intéresse ce soir à une méthode de guérison, une méthode un peu particulière où médecine traditionnelle et spiritualité s'allient, une pratique venue des Philippines qui s'appelle la chirurgie psychique ou la chirurgie à main nue. Bonsoir Pierre-Yves Moret.
Bonsoir.
Qu'est-ce que c'est que cette chirurgie à main nue ?
En résumé, c'est une méthode qui est devenue connue en Occident au fil du XXe siècle, autour notamment de deux figures de guérisseurs, Eleuterio Tertet et puis Tony Akpawa. Et puis ensuite, dès les années 60-70, avec notamment l'intérêt de diverses personnalités américaines, notamment Shirley MacLaine qui a écrit un livre sur ces questions-là et qui a fait connaître un autre personnage, Alex Orbito, qui est aujourd'hui un peu la grande figure de cette tradition de guérison psychique ou chirurgie spirituelle à la mode philippine.
Alex Orbito, donc, qu'on entendra tout à l'heure puisque vous avez pu le rencontrer. Alors pour comprendre dans quel champ de soins on se situe, on va parler de guérison spirituelle, de chirurgie psychique. Bon, on travaille dans une dimension évidemment énergétique, difficilement perceptible de l'être humain.
Oui, alors pour comprendre précisément de quoi on parle, je vous propose, pour entrer dans ce dossier, d'entendre Denise Gillian. Elle est médium guérisseuse et elle exerce à Lausanne. Elle s'est elle-même formée à la chirurgie psychique avec Alex Orbito en Philippines. Elle s'est rendue régulièrement pendant 3 ans là-bas pour suivre des formations. Alors elle n'utilise pas le terme de chirurgie. Elle parle d'extraction de négativité. On va comprendre la différence. Ou extraction de mémoire. Elle en explique le principe. Denise Gillian.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se mettre dans un état de conscience modifié qui permette d'être canal. Canal de forces, d'entités qui sont dans le monde spirituel, qu'on peut nommer les médecins du ciel, qui vont agir pour la guérison de notre patient à travers nous. La particularité du mode philippin d'action, c'est que des personnes comme Alex Orbito traversent la matière. Très concrètement, ça veut dire qu'il va poser sa main sur votre ventre, par exemple, et permettre aux médecins du ciel d'opérer. C'est pour ça que ça s'appelle chirurgie psychique. C'est comme si ses doigts se rallongeaient au niveau énergétique et prenaient une telle consistance qu'effectivement, il entre dans le corps physique. Alors, ce n'est pas la main qui va dans le ventre, on est d'accord. C'est ses doigts énergétiques qui pénètrent le corps physique. Mais aux Philippines, il y a vraiment une opération. Il y a du sang qui coule, mais on ne sent rien. Il n'y a pas de douleur, on n'est pas endormi, mais on est comme anesthésié dans un champ de conscience modifié. C'est très très bizarre. On se met vraiment à la disposition de sa propre guérison, en toute confiance, dans les mains du guérisseur. On sent pratiquement rien, si ce n'est qu'il bidouille à l'intérieur. Et il y a comme une aimantation qui se fait, où on va aller extraire la négativité de la maladie ou du blocage psychique qui a induit une maladie ou un mode de vie qui pose problème. Cette négativité va être extraite. Alors chez les guérisseurs philippins, il y a quelque chose dans la main. Elle se voit, il matérialise la négativité. Alors ça peut ressembler à du foie de poulet, à du boudin. J'ai vu Alex Orbito extraire du plastique sous forme de corde à linge, comme 3 mètres comme ça de corde à linge qui sortait du ventre de quelqu'un. Donc la matière prend différentes formes. Alors tout ça est extrait du corps, jeté, puis ensuite on passe simplement la main sur la partie opérée du corps. Le sang disparaît, il reste aucune marque, et la personne se relève et va boire un verre d'eau. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse dans ces pratiques. Hein. On entre dans un champ des possibles beaucoup plus large que ce que notre esprit humain permet et ce que notre culture, surtout occidentale, a l'habitude de vivre et de voir.
Denise Gillion, médium, guérisseuse, qui s'est formée aux Philippines auprès de guérisseurs psychiques. Pierre-Yves Moret, bon, c'est vrai que ce genre de démarche ne correspond pas vraiment à nos standards occidentaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça semble proprement incroyable d'imaginer de pratiquer sans bistouri une forme de chirurgie. Est-ce que ça marche?
Ça marche pour beaucoup de personnes qui ont sollicité ces soins pour des questions de maladie, de dépendance, de mal-être ou d'autres questions. Et ça ne marche pas pour beaucoup d'autres personnes, notamment tous ceux pour qui la rationalité et l'approche médicale traditionnelle est primordiale, disons. Mais ça, c'est une question où se mélangent les notions d'efficacité médicale sur le plan physique, technique, disons, et l'efficacité existentielle, spirituelle, cette dimension-là de la guérison. Alors moi, je vous propose d'aborder une autre question, en tout cas un peu différemment, c'est d'essayer de comprendre à quel monde symbolique et spirituel ces approches correspondent et qu'est-ce qui, nous, à nous en Occident, de manière générale, nous parle dans ce type de démarche.
Et donc, vous avez rencontré Alex Orbito, qui est, disons, la figure de proue de ce mouvement ici en Occident et aux Philippines également.
Oui, c'est un peu la personne incontournable, la grande célébrité de cette pratique-là. Il était de passage à Genève en août dernier. Il y vient chaque année depuis plusieurs années. Il a obtenu en 2006 le droit d'exercer, décerné donc par le médecin cantonal de Genève, le droit d'exercer la guérison spirituelle dans le canton de Genève. Alors, c'est pas exactement celle qu'il pratique aux Philippines et qu'évoquait tout à l'heure Denise Gillion. Ici, en Suisse, il a pas le droit d'entrer dans le corps. Il doit faire, au fond, une sorte d'exercice de magnétisation à distance, un travail sur les énergies. Donc, c'est une guérison un peu différente qu'il pratique ici ou celle qu'il pratique encore aux Philippines.
Peut-être juste avant de l'entendre, est-ce que vous nous dites deux mots sur cet homme?
Alors, Alex Orbito, que les gens appellent souvent Père Alex ou Révérend Orbito ou Frère, il est né dans une région pauvre des Philippines. Il a entre 75 et 80 ans aujourd'hui. Il vient d'une famille de guérisseurs. À 14 ans, il guérit une femme handicapée. Il devient réputé sur place, sa notoriété croît sur la scène internationale, notamment par le livre de Shirley MacLaine qu'on a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il est leader spirituel de la Interfaith Church, l'union spiritiste interfoi des Philippines. C'est une sorte d'organisation spirituelle mais relativement ouverte, disons. Il a reçu certaines distinctions nationales ou internationales pour la dimension humanitaire de son travail, donc c'est quelqu'un qui a une grande notoriété internationale. Et donc lui, je le rappelle, il pratique deux types de guérison. Aux Philippines, il fait ce qu'on appelle la chirurgie psychique ou chirurgie à main nue, donc entrer dans le corps sans faire de trou, juste avec ses mains. Et puis à l'étranger, donc il n'a pas le droit de pratiquer cette pratique-là, il pratique donc une guérison énergétique. Mais je vous propose de retrouver Alex Orbito, de le rencontrer pour qu'il nous raconte ce qu'il fait précisément aux Philippines.
You know the operation in the Philippines.
Vous savez, dans les opérations aux Philippines, ma main est comme un aimant. Parfois, je ne vais même pas à l'intérieur du corps. Je ne fais qu'appliquer ma main. Et la maladie sort. Même si la maladie est très puissante, elle vient dans ma main. Et je la retire alors immédiatement. Je me concentre et je vois le corps de la personne comme de l'eau. Si vous mettez votre main dans l'eau et que vous la retirez, vous ne voyez pas de cicatrice. Je fais de la matérialisation par la concentration. Je respire profondément et ma respiration me rend fort, me connecte à la puissance de guérison de Dieu jusque dans ma main. Et la maladie se matérialise dans ma main. Mais ce n'est pas facile à expliquer. Des gens sont venus enquêter, des docteurs, des scientifiques, et je leur ai dit, venez voir de vos propres yeux et me posez vos questions. Parce que si j'explique dans mes mots, c'est parfois compliqué. Mais je répète toujours, la matérialisation, c'est la guérison. Ce n'est pas un truc pour convaincre les gens, non.
Mais j'ai dit encore que la matérialisation est la guérison. Ce n'est pas pour convaincre les gens.
C'est ma connexion spirituelle, c'est mon ministère de guérison, de matérialiser et de guérir ces gens. Donc on m'a posé beaucoup de questions sur la chirurgie psychique par le passé. Mais je pratique la guérison spirituelle pour rapprocher les gens de Dieu. C'est ma mission, leur apprendre à s'aimer.
Alex Orbito, guérisseur philippin, qui était à votre micro, Pierre-Yves Moret. Bon, on l'entend, Dieu a l'air très très important dans sa démarche, dans son approche.
Oui, et on va revenir plus tard peut-être sur le genre de Dieu ou de quel Dieu est-ce qu'il s'agit. Mais avant cela, je vous propose d'entendre d'où viennent ces pratiques de chirurgie spirituelle ou de chirurgie à main nue, pour reprendre cette expression. Et on va rencontrer pour ce faire Lara Duc, ethnologue doctorante à l'Université de Neuchâtel. Elle travaille sur les pratiques de chirurgie alternative, comme on dit. Elle prépare une thèse actuellement sur ces questions. Elle connaît très bien les Philippines pour s'y être rendue à de nombreuses reprises et avoir rencontré différents guérisseurs philippins.
On en trouve quand même un petit peu partout dans le monde, hein. Mais c'est vrai qu'elles sont le produit d'un contexte quand même culturel, particulièrement au Brésil et aux Philippines, ainsi qu'en Angleterre, au Royaume-Uni. Elles existent en fait en ces trois points du globe depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon cette forme en tout cas. Ces pratiques s'inscrivent dans un contexte spiritiste, c'est-à-dire une religion qui fait référence à la croyance aux esprits, qu'ils soient esprits de mort ou esprits de la nature ou l'esprit saint qui relie à la figure de Dieu. Mais ce sont toujours dans ces contextes religieux. À la base, ce sont des pratiques qui sont religieuses qui apparaissent.
Vous avez évoqué la question des traditions spirites, du spiritisme. Dans quelle mesure est-ce que les traditions religieuses chrétiennes aussi ont été soit un vecteur de transmission, d'ancrage de ces pratiques-là, ou au contraire un blocage ?
Mais c'est tout à fait le cas. Les guérisseurs philippins, en règle générale, ne sont pas pour autant exclusifs du système catholique. Bien au contraire, ils recommandent d'aller à l'église le dimanche, d'aller à la messe. Ils recommandent toujours de prier, ils recommandent de lire la Bible. La Bible est le texte sacré de base, même du spiritisme philippin, et pas uniquement du catholicisme philippin, où la Bible est utilisée vraiment comme un élément sine qua non, sans lequel le soin ne peut se produire. Et en tout cas, à l'époque de Terté, qui était le premier chirurgien psychique de l'histoire des Philippines, il utilisait la Bible pour la mettre sous la nuque des patients, ou sur la tête des guérisseurs, pour que la connexion avec le Holy Spirit, hein, comme ils disent, se passe bien et pour que les soins soient de bonne qualité.
L'ethnologue Lara Duc, qui était à votre micro, Pierre-Yves Moret. Pierre-Yves, est-ce qu'on peut savoir quel est le bassin, au fond, des patients potentiels de cette chirurgie à main nue ?
Alors, on va revenir après, toujours avec Lara Duc, sur le profil un peu général de la patientèle, comme on dit, de ce genre d'approche. Mais avant ça, je vous propose d'entendre un témoignage. C'est celui d'Elisabeth Schick, qui a elle-même profité des soins d'Alex Orbito et qui, depuis, est engagée. Elle s'est ensuite formée pour devenir elle-même thérapeute en aromathérapie. Et puis, elle participe à l'organisation de la venue d'Alex Orbito chaque année à Genève.
J'ai rencontré Alex Orbito en 2008. J'avais un cancer du sein. Une amie m'a parlé d'Alex Orbito, je suis venue le voir, ça a été une révélation. J'ai eu 3 soins et ensuite je devais partir aux Philippines. Et en avril 2009, je suis allée faire mon premier séminaire aux Philippines. Et chaque année, je suis retournée.
Et sans vouloir être indiscret, votre condition médicale, elle s'est améliorée ?
Oh oui, je dirais, grâce à la médecine, parce que j'ai subi une mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie et tout ce qui va avec. Et je dirais, grâce à Alex Orbito qui m'a permis de passer ce cap dans les meilleures conditions et de me reconnecter avec moi-même, de me reconnecter à ma source, je dirais. Et c'est merveilleux.
Mais vous diriez, Elisabeth, que Alex Orbito a participé à soigner votre corps ou votre âme ?
Les deux. Les deux, parce que la toute première fois que je suis venue le voir, on est toujours en questionnement, hein, la toute première fois, et j'avais une grande cicatrice suite à l'opération, et il m'a travaillé là-dessus, et je suis rentrée chez moi, et ma cicatrice n'était plus boursouflée, mais elle était plate. Et ça m'a bluffée, quoi. Je me suis dit, non, là, il y a eu quelque chose. Enfin, j'ai déjà senti au fond de moi, mais j'ai eu l'occasion de le voir de visu, qu'il y a eu quelque chose. C'est devenu une évidence.
Vous-même, Elisabeth, vous étiez, avant d'aller le voir, ancrée dans une tradition religieuse particulière. Vous aviez une éducation de foi spéciale. Comment vous vous situiez ?
Écoutez, comme beaucoup de gens ici en Suisse, j'ai suivi mon catéchisme, j'ai fait ma communion et ma confirmation. Et puis après,
dans l'Église catholique ?
Protestante. Et puis après, voilà. Ça s'est arrêté joliment ici. Je ne me suis jamais autrement après posé la question. Mais depuis, je sais. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Je sais qu'il y a, maintenant, comme dit Alex Orbito, chacun le nomme, chacun lui met le nom qu'il veut. Dieu, Jésus, Marie, les anges, mes guides, Bouddha. Et je pense que c'est ça qui fait la force de cette spiritualité. C'est que c'est ouvert. Chacun y met sa foi et ses propres mots. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que c'est ouvert à tout.
Après ce témoignage, on retrouve Lara Duc, ethnologue, pour dresser un portrait plus large des personnes qui s'intéressent à la chirurgie psychique ou chirurgie à main nue.
Effectivement, quand les guérisseurs ont commencé à se faire connaître à l'outre-mer, c'est vrai qu'il y a eu une première vague de patients qui sont arrivés aux Philippines qui ont été leurs premiers clients, entre guillemets. C'était les personnes qui étaient déçues du système biomédical ou qui étaient condamnées par le système biomédical. En tous les cas, c'était toujours relié à la médecine. Maintenant, on voit émerger, depuis les années 60-70, une nouvelle vague de catégories de personnes qui sont vraiment très interpellées par ces pratiques-là. Et ce sont ce que j'appelle, à défaut de mieux, les New Agers, ou les personnes issues du New Age. Ce sont des personnes qui sont sensibles aux spiritualités alternatives, qui trouvent effectivement des points d'interface avec les pratiques du monde du guérissage, qu'ils soient chirurgiens psy, qu'ils soient chamans, qu'il s'agisse de faire un pèlerinage en Israël. Du moment que ça implique un développement personnel, comme ils disent, ou une connaissance du soi qui dépasse en fait les limites du quotidien, qui implique souvent des mises en état de conscience altérées, ressentir des choses qui à la base ne sont pas supposées exister, comme de l'énergie, des choses invisibles, imperceptibles a priori. Voilà, ce sont cette catégorie de personnes qui sont très très intéressées par ces pratiques. Elles sont pas pour autant partisanes, mais elles sont sensibles à la problématique. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui sont, elles, formellement contre les symboles chrétiens. Et c'est vrai que ces catégories de personnes, souvent, lorsqu'elles arrivent aux Philippines et qu'elles se rendent compte que ces guérisseurs sont biblicistes, qui sont dans un littéralisme religieux, qui n'ont pas forcément le recul qu'elles peuvent avoir sur les philosophies religieuses, eh bien, il y a des déceptions.
Lara Duc, ethnologue à l'université de Neuchâtel. Pierre-Yves Moret, on comprend bien qu'effectivement ça pose des questions à la fois culturelles, de culture New Age ou peut-être plutôt explicitement chrétienne, mais en même temps ça pose des questions d'approche médicale. On sent qu'il y a des personnes qui se tournent vers ce type de pratique parce qu'elles sont quelque part déçues de la médecine classique occidentale. Bon, la question de l'efficacité, on va pas en parler ce soir comme on l'a déjà dit, mais quand ça marche pas, quand il y a un échec de ce type de proposition, Qu'est-ce qui se passe?
Alors évidemment, individuellement, chacun trouvera des réponses concrètes ou existentielles différentes. Mais c'est précisément la question que je voulais poser à Alex Orbito, de savoir au fond, c'est un guérisseur, beaucoup de gens recourent à lui avec des attentes. Quand ça ne marche pas, comment est-ce qu'il réagit, Alex Orbito?
Remember, I'm not God.
Oui, souvenez-vous, je ne suis pas Dieu. Si je l'étais, tous seraient guéris. Alléluia!
Alléluia!
Mais certains ne sont pas guéris. Alors je leur dis, revenez, si vous avez toujours la foi. Ce n'est peut-être pas le temps de votre guérison, mais ne perdez pas espoir. L'espoir est votre foi. Si vous continuez de croire que Dieu agit, votre appel à la guérison sera plus fort.
Est-ce que si l'on n'est pas guéri, il n'y a pas le risque qu'on se sente coupable de ne pas croire assez, de ne pas croire pour de vrai, et d'être soi-même coupable de sa non-guérison, de sa maladie?
Oui, parfois, il y a des gens qui ne savent pas comment pardonner, des gens qui se sentent coupables. On leur dit qu'il faut apprendre à pardonner, et plus de guérison viendra à vous. Et puis, il y a des gens dont la maladie est le karma. C'est comme un héritage familial. Si quelqu'un dans le passé a eu le cancer, eh bien d'autres, après lui, auront le cancer. Mais au fond, ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même. Si vous fermez vos yeux, vous respirez profondément, vous pouvez sentir le calme et vous dire « Je m'aime moi-même et je t'aime, Dieu ». Dieu, pardonne-moi. Et je pardonne à autrui également. Retire mes émotions. Tout ce que je ressens, Dieu, aide-moi. Et je sais que Dieu est amour. Et votre prière se matérialise en vous par votre sincérité.
Toujours sur cette conception de la culpabilité devant une non-guérison, on retrouve l'ethnologue Lara Duc.
Dans le système spiritiste philippin, la maladie est la conséquence d'un péché. Ce qu'on oublie, c'est que les guérisseurs philippins ont été éduqués et dans la notion même de péché, de châtiment, de culpabilité. Mais c'est des choses, je me suis longuement entretenue avec des thérapeutes occidentaux qui ne voulaient absolument pas concevoir l'idée que leur héros, qui apparemment les a sauvés d'un cancer de X, considéraient leur maladie comme le résultat d'un péché. Ça ne plaît pas, mais je pense que certains ont compris que ça ne plaît pas du tout. Et ils évitent trop d'entrer aussi dans ce genre de système de catégorisation. Pas du tout occidental. Bien au contraire. Dans le système ou les systèmes New Age, déjà, le péché, il n'a pas droit d'existence. Il n'existe pas. Parce qu'on se révolte contre la notion de culpabilité, déjà judéo-chrétienne, donc c'est déjà pas quelque chose qui existe dans le langage. Mais surtout, la maladie, pour eux, n'est pas la conséquence d'un péché. C'est la manifestation de l'univers pour les inviter à grandir. Elle est lue comme telle, du moins. Et souvent, les personnes qui sont très malades, qui se guérissent au contact des guérisseurs philippins, eh ben ça bouleverse totalement leur vie. Et puis, ils se lancent dans le monde de la thérapie.
Les propos de l'ethnologue Lara Duc. Pierre-Yves Moret, on s'interroge sur le succès que connaît ce mouvement. Il est déjà ancien pour ses racines, mais au fond, aujourd'hui, il connaît une certaine notoriété. Ici, là-bas, aux Philippines, comment ça se passe?
Alors, on va entrer dans ces détails-là, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est devenu mondialement connu, ces guérisseurs philippins, au milieu du XXe siècle à peu près, dans les années 60-70 en particulier. Il y a eu une sorte d'élan très fort dans les années 80. Ça s'est un peu calmé ensuite. Il y a eu un certain déclin. On va aborder ces questions avec Lara Duc toujours, mais avant cela, il faut peut-être revenir sur précisément ces différences culturelles qu'on a déjà évoquées ça et là, pour comprendre qu'entre, au fond, entre les Philippines et l'Occident, il y a quelque chose qui relève aussi d'un malentendu.
C'est comme s'ils avaient internalisé quand même la fausse croyance qu'ils sont inférieurs à la puissance occidentale. Il y a quand même eu quelques siècles de colonisation Hein. Puis ensuite, il y a eu les Américains. Donc, ils ont finalement pu commencer à se débrouiller par eux-mêmes, selon eux, qu'à partir de... après la Révolution, en 1898, mais ensuite à partir de 1946. Hein. Donc, il y a toujours cette forme de réserve, de ne pas savoir comment satisfaire la demande et les attentes occidentales. Ils ont des explications qui sont, moi je trouve, très intéressantes de leur pratique, mais qui finalement n'intéressent pas véritablement leurs plus grands fans, paradoxalement. Parce que ces personnes-là, leurs plus grands fans, ont déjà édifié une théorie en leur nom et à leur place, une théorie qui est parapsychologique souvent, hein. On fait référence à la télékinésie, à la psychic surgery, c'est déjà pas du tout un terme philippin, hein. On fait référence au procédé, à la physique quantique, au procédé de matérialisation. Tout ça, à la base, ça ne fait pas partie du tout de leurs explications. Pour eux, c'est Dieu. Ils sont simplement le canal, ils reçoivent le Holy Spirit, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, ce sont des explications qu'ils ne parlent que très peu, finalement, à des personnes qui se sont distancées et du système biomédical et du système chrétien, qui ont une réinterprétation de la médecine et de la religion chrétienne. Donc forcément, là ils comblent un vide symbolique et ils vont réinterpréter d'une manière qui leur convient mieux. C'est typique des comportements New Age. C'est la réinterprétation des systèmes symboliques autres en fonction de ce qui nous parle le plus à nous. Et par contre, on va projeter ces réinterprétations sur eux.
Arrêtons-nous encore pour finir sur le succès précisément que ces guérisseurs philippins rencontrent sur place, chez eux aux Philippines. Lara Duc.
N'oublions pas que les Philippines abritent les plus grandes écoles médicales et les plus grands hôpitaux dans l'Asie. Donc forcément que le système, l'infrastructure biomédicale aux Philippines est très forte, les valeurs biomédicales sont très fortes. Seules les personnes issues des zones rurales défavorisées vont voir les guérisseurs philippins. Ces guérisseurs, pour le peuple philippin, ne sont absolument pas... ils sont totalement discrédités par le discours dominant, ça c'est sûr.
Tous.
Ce n'était pas le cas du temps de Marcos. Parce que Marcos, c'était un président qui était fondamentalement proche des guérisseurs philippins, qui n'hésitait d'ailleurs pas à leur donner parfois certains des postes, hein, des postes dans la politique. Lorsqu'il a été démis de ses fonctions, la popularité de ses guérisseurs a diamétralement chuté. Alexandre Bito n'est pas connu par le peuple philippin.
Ah non.
Vous demandez à quelqu'un, vous connaissez Alexandre Bito, il ne connaît pas. Après, vous décrivez ce qu'il fait, il va dire « Ah, loco, loco !» D'ailleurs, celui qui est un peu foufou, qui fait des choses... Ils ont une vague image qui leur vient peut-être des décennies précédentes de cette controverse, mais la controverse n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Leur réputation est uniquement à l'international, mais étrangement, elle n'est plus vraiment... sauf évidemment dans les zones rurales. Oui. Sur place, le discours dominant philippin jette le discrédit sur ces supposément faiseurs de miracles. Pour eux, ce sont des prestidigitateurs et absolument rien d'autre. En revanche, ils sont très cléments. Tant qu'il n'y a pas de plaintes qui sont retenues contre ces praticiens, ils ne font rien parce qu'ils ont quand même la conscience que c'est quand même une source de revenus importante pour le tourisme philippin.
Donc ça veut dire que ces guérisseurs, en tout cas pour certains d'entre eux, ils vivent en grande partie grâce à la curiosité étrangère, au fond, une clientèle étrangère.
Mais c'est comme ça qu'ils vivent, et c'est grâce et par nous. Je dirais qu'il y a trois catégories de guérisseurs. Il y a ceux qui ont toujours maintenu le don, et ceux qui ont perdu le don, et qui, pour continuer de survivre, ont dû trouver des artifices, des subterfuges, et qui ont commencé à devoir faire de la prestidigitation malgré eux. Puis il y a les autres encore qui ont vu un super créneau commercial, puis qui ont directement commencé comme ça, qui n'ont pas forcément de connexion particulière, qui ne sont pas plus biblicistes que d'autres. Et il ne faut quand même pas oublier qu'à la base, quand RT officiait, le sang n'apparaissait pas tant que ça aux Philippines. Les matérialisations, un peu, de temps en temps. Mais ce n'était pas du tout des miracles produits à la chaîne comme c'est le cas aujourd'hui. C'est finalement la demande occidentale qui, indirectement, a infléchi le modus operandi de ces guérisseurs, parce que les gens, ils payaient cher pour venir aux Philippines, et puis c'était le fruit d'un long voyage. Puis ensuite, ils écrivaient. Donc, certains se sont dit, mais mon Dieu, s'ils arrivent et que je ne suis pas connectée, et puis que ça ne marche pas, mais je vais me payer la risée. On parle de moi déjà dans tel journal. Comment je vais faire pour ne pas perdre ma face? Vous voyez? Donc, certains, à des moments où ils étaient plus fatigués que d'autres, ou moins connectés, ou en pleine annulation de mariage, ou je ne sais quoi, en plein drame, il a fallu trouver des moyens pour survivre. Donc, certains ont recouru à ça périodiquement. Puis d'autres n'ont jamais retrouvé leur don, je pense, parce que c'était trop tard. Et puis, d'autres ont directement commencé comme ça. Donc, je pense qu'ils sont victimes de leur propre succès, voilà, à l'international. Et que nous, les Occidentaux, on a tendance à regretter que quand même, il y en a qui gâchent la réputation des vrais, parce que les faux... On voit tout en termes de vrais et de faux, mais ce qu'on oublie, c'est que nos attentes, une fois arrivées là-bas, sont tellement fortes. On vient là-bas pour voir de la prestation. On est dans une logique de service-prestation.
Et d'efficacité.
Et d'efficacité. On a payé pour voir du show, donc on en veut pour notre argent, voyez. Alors forcément, c'est une logique qui ne cale pas avec la logique religieuse, où ce sont des miracles qui peuvent se produire, mais qui ne sont pas, évidemment pas systématiques, puisque lorsqu'un miracle devient systématique, ce n'est plus un miracle, ça devient un fait d'existence du quotidien. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là, vous comprenez. Donc forcément, ça a généré des conflits, des bouleversements.
Lara Duc, ethnologue, doctorante à l'université de Neuchâtel. Pierre-Yves Moret, est-ce qu'il y a un rituel qui se passe autour de cette chirurgie à main nue?
Oui, alors évidemment, on a compris la place notamment de la Bible aux Philippines, tout à l'heure avec Lara Duc, l'importance de ces questions-là, l'évolution de ces pratiques ou leur adaptation peut-être aussi aux attentes de l'Occident. Mais c'est vrai que de toute façon, on se pose pas simplement sur la table devant Alex Orbito ou un guérisseur, il y a une préparation, on demande au patient de prier, il y a des prières pour le guérisseur lui-même qui se passent en amont. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fédérateur dans cette approche, c'est que là aussi, on peut se référer de telle ou telle tradition, sans tradition religieuse ou avec une tradition religieuse, mais la prière, c'est quelque chose qui synthétise l'espoir d'une guérison, l'attente et la reconnexion avec ses propres valeurs, qu'elles soient spirituelles, existentielles ou autres. Et ça, je pense que c'est ce qui ressort, en tout cas des discussions que j'ai pu avoir avec chacune des personnes interrogées. Lara Duc, pour préciser, c'est une ethnologue avertie sur ces questions-là. Elle pose un regard lucide sur ses pratiques, mais elle n'est pas à les juger ou à les condamner. C'est pas du tout une approche, évidemment, l'approche anthropologique n'est pas de ce type. Denise Gillian aussi, qu'on entendait au début de l'émission, soulevait l'importance de l'espoir dans une démarche de guérison. Et au fond, qu'on croit ou pas à l'aspect pratique et efficace d'une approche telle que celle-ci, c'est une chose, mais l'espoir qu'on y place et la manière dont on se rattache à cet espoir par la prière, par exemple, en rapport avec le guérisseur ou autre, ça c'est un élément déterminant de ce type de démarche. C'est un exemple parmi d'autres.
Merci Pierre-Yves Moret pour ce dossier consacré à Orbito, Alex Orbito, le chirurgien à main nue. Réécoute, téléchargement, documents complémentaires, tout ça vous le trouvez sur rts.ch/haute-fréquence. Grandma Land, clapped in church on Sunday morning. Grandma Land, played a tambourine so well. Grandma Land, used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass, Grandma Land. Grandma's hand soothed local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hands.
grandma's hands used to hand me piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you want to spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
Al Jarreau, Grandma's Hands.
Infotrafic, RTS.
Sur la ligne de ferroutage de la Fourca, le temps d'attente est d'au moins une demi-heure à la gare de chargement de Borvald. Passé de 30 secondes sur la première, vous écoutez Haute Fréquence. Il y a une semaine, lors du premier tour des élections régionales françaises, un parti politique est sorti de sa relative confidentialité. Il s'agit de l'Union des démocrates musulmans de France. Alors il ne s'est pas qualifié pour le second tour, ayant obtenu moins de 10% des voix. Second tour dont on aura les résultats tout à l'heure. Mais ce parti se profile dans le paysage politique français. On va donc décrypter cette formation politique avec vous, Marie-Claude Cudry. Bonsoir.
Bonsoir. Et oui, l'Union des démocrates musulmans de France a été fondée en 2012 et est présente pour l'instant dans trois régions de France. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, ça c'est une région. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième. Et l'Île-de-France, son berceau d'origine. C'est une toute petite formation politique, mais elle a obtenu près de 6% des voix dans les Yvelines lors du premier tour des régionales, devançant même le Parti écologique.
Un petit qui progresse. Quels sont quelques éléments du programme de cette formation ?
Alors ce parti se présente comme une formation susceptible d'apporter une alternative au sein de la société française dans les domaines économiques, social et politique. Ses principaux thèmes sont la citoyenneté et le vivre ensemble qu'il décline dans ces trois domaines. Il revendique par exemple l'apprentissage de l'arabe à l'école et les repas halal dans les cantines scolaires.
Alors on s'interroge évidemment sur la question de la confessionnalisation de ce parti. Est-il laïque? Est-il confessionnel?
Bien, l'Union des démocrates musulmans de France réfute totalement cette appellation, mais c'est vrai qu'en parcourant son programme, on peut quand même se demander si la religion n'interfère pas dans certains thèmes, comme celui de la finance ou de l'éducation. Cette formation politique revendique une posture laïque, certes, mais s'appuie quand même sur les valeurs de l'islam. Elle se compare un peu au parti chrétien-démocrate, cette formation confidentielle s'il en est, mais dont les références sont issues du christianisme.
Et on imagine que la progression de ce parti ne plaît pas à tout le monde.
Oui, et suscite des réactions qui ne sont pas toujours des plus accueillantes. Les milieux de droite et d'extrême droite ont manifesté clairement leur hostilité. Le parti a reçu des menaces et dimanche dernier, lors du premier tour, les bulletins de vote ont été retirés et jetés à la poubelle dans certains locaux. Mais tout ceci n'arrête pas l'Union des démocrates musulmans puisqu'elle se fixe comme prochain objectif les législatives et la présentation possible d'un candidat à la présidentielle française.
Pour en parler, nous recevons Raphaël Liogier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct quelques instants. Vous êtes philosophe, vous êtes directeur de l'Observatoire du religieux et vous avez récemment publié un livre, Le complexe de Suez, le vrai déclin français, paru aux éditions Le Bordelot. Moi, j'aimerais d'abord vous solliciter sur une brève analyse sur ce parti. Est-ce que ça dit quelque chose d'un changement au niveau des électeurs de musulmans, d'une prise de conscience, quelque chose de cet ordre-là? Ou est-ce que pour vous, c'est à situer dans un micro-parti, au fond, comme un épiphénomène et rien de vraiment changeant?
Moi, je ne crois pas que ce soit du tout un épiphénomène, parce que c'est un parti qui a été construit de l'extérieur, justement, par ce que j'appelle cette espèce de pathologie, justement dans le complexe de Suez, cette espèce de pathologie identitariste européenne qui se développe depuis 2003-2004, où un certain nombre de partis politiques, vous le voyez d'ailleurs en Suisse, avec le Parti de la démocratie du centre, eh bien en France, c'est à peu près tous les partis, y compris souvent à gauche, parfois à gauche, qui prennent les musulmans comme étant en quelque sorte les boucs émissaires des échecs, qui peuvent être des échecs économiques, sociaux et tout ce que vous voulez. Et donc il se trouve que jusqu'en 2012, ça c'est intéressant d'ailleurs que ce soit la date de 2012, la date de fondation du parti, c'est que jusqu'en 2012, en fait il y avait une répartition électorale assez commune. chez les musulmans trans. C'est-à-dire comme il y a une majorité d'entre eux qui vient de milieux socioculturels plutôt défavorisés, bon, ben, il y avait une petite prégnance à gauche, mais en fait, il y avait une bonne répartition à droite, même des partis libéraux et autres. Et en 2012, on a vu un changement. C'est comme la plupart des programmes politiques aux élections présidentielles de 2012 étaient des programmes qui critiquaient l'islam sous un vocable qui était celui du communautarisme et toutes ces choses-là. Et bien là, pour la première fois, on peut dire qu'on a eu vraiment un vote musulman qui n'existait pas avant. On l'a vu très clairement dans des endroits, par exemple à Marseille, dans les quartiers nord, dans le 93, à Paris, là où il y avait notoirement une plus grande proportion de musulmans, eh bien, il y a eu un report très fort sur François Hollande, parce que c'était celui qui avait moins critiqué l'islam. Et donc je pense que ce parti s'est inscrit dans cette nouvelle réserve électorale, en quelque sorte.
Est-ce qu'il est susceptible de se faire une place solide dans le paysage politique français, selon vous ?
Moi, je ne pense pas que ce soit un parti susceptible de s'accroître outre mesure, c'est-à-dire au-delà, on va dire, des 6, 7, 8% maximum, parce qu'il faut quand même rappeler que les espaces électoraux que vous avez évoqués sont des espaces électoraux où il y a une forte proportion de musulmans, mais sur l'ensemble du territoire français, on ne pourra pas dépasser, même avec une très forte mobilisation, je crois, les 6, 7, 8%. En revanche, c'est un parti qui est destiné à montrer aux autres partis qu'il existe un électorat musulman et qu'aujourd'hui on doit compter avec lui, donc on doit discuter avec lui. Peut-être que c'est un parti qui peut servir à replacer dans le débat public des questions qui, jusque-là, il faut dire, sont plutôt névrotiques, et en particulier depuis les différents attentats sur le territoire français, où on a tendance à confondre d'un côté des djihadistes qui n'ont pas grand-chose à voir avec même la pratique de l'islam, et de notre côté, des musulmans, si je puis dire, dans leur écrasante majorité, qui sont des musulmans apaisés. Donc ça permet d'imposer un vrai débat au-delà, je crois, des préjugés. Et dans quelque sorte, quand vous regardez les thèmes de ce parti, vous vous rendez bien compte qu'il parle de vivre ensemble, il parle de toutes ces choses-là. Bah, c'est ce que cherche à faire ce parti, au fond. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment un espoir qui soit, par exemple, même s'ils arrivent à présenter un candidat à l'élection présidentielle, d'arriver ne serait-ce qu'au second tour.
Oui, il y a la question du vivre ensemble, mais dans ce programme, je l'ai dit aussi, il y a quelques aspects religieux, plus religieux en tout cas, notamment sur la finance et l'éducation. Oui. Est-ce que ces revendications-là, est-ce qu'elles sont peut-être susceptibles de bousculer un peu la laïcité française, par exemple?
Moi, je vais vous dire, la laïcité française, je crois que c'est elle qui est bousculée ces dernières années, avec une interprétation fallacieuse, qui est celle du Front National et qui est celle d'autres. Le Front National, avant 2005, considérait, avec Jean-Marie Le Pen, que la laïcité, c'était le complot judéo-maçonnique. À partir de 2005, c'est devenu une sorte de patrimoine à défendre, au même titre que la virginité de Jeanne d'Arc et le château de Versailles, ce qui est quand même assez bizarre. Hein. Donc, je vais vous dire, la laïcité n'empêche absolument pas d'avoir un programme politique fondé sur des valeurs religieuses. Ce n'est pas la séparation de la religion et du politique, même pas de la religion et de l'État, c'est la séparation des églises et de l'État, on l'oublie souvent, c'est-à-dire de deux types d'organisations qui ne doivent pas se financer, qui ne doivent pas communiquer par le biais de financement pour que chaque école de pensée croyante ou non-croyante soit à égalité devant l'État. Aujourd'hui, on nous explique que c'est la séparation du religieux et du politique. On parle de la neutralité comme étant la neutralité, la neutralisation des citoyens, alors que normalement, c'est la neutralité des représentants de l'État, justement pour préserver la multiplicité des expressions religieuses. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas qu'un parti, les partis démocrates chrétiens, ils ont raison d'y faire référence, en particulier les partis démocrates chrétiens à l'allemande, où il y a un certain nombre de valeurs qui sont directement touchées. Par exemple, il y a une certaine idée de la solidarité fondée sur le principe de la charité chrétienne et autres. Ce n'est pas un problème de fonctionner de cette manière, dans la mesure où on n'est pas exclusif une fois qu'on arrive au pouvoir et on ne finance pas sa propre organisation. Il faut restituer les choses à leur juste place, je pense.
Raphaël Yogier, on s'interroge aussi sur la question que vous souleviez tout à l'heure de faire apparaître dans le paysage politique des questions qui touchent à l'islam, mais de manière apaisée, de manière dépassionnée. Ce parti peut-être représenter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent amener une manière dépassionnée de parler de l'islam en France ?
Ah ben, moi, je pense que la manière, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'ambiance décliniste en Europe. L'Europe a été le centre de gravité de l'humanité pendant des siècles. C'est une singularité historique, je veux dire, absolue. et les Européens n'acceptent pas de ne plus avoir cette place centrale. Donc ils ont une sorte de complexe narcissique. Ils ont peur que leur identité s'effondre. Ils n'arrivent pas à s'unir. Ils n'arrivent pas à exister à l'échelle continentale. Ils se rendent compte que ce sont des petits États. Donc ils sont rivés à leur souveraineté nationale obsessionnellement. Bon, moi, je crois qu'il faudrait travailler sur cette espèce de problème, c'est une problématique européenne qui finalement fait le jeu de Daesh, fait le jeu de toute une série d'ailleurs de glissements actuels, d'extrémisation si bien d'un côté que de l'autre. Donc je crois qu'il faudrait avoir de grands débats nationaux dans les différents pays d'Europe, en France en particulier, bah sur cette espèce de folie identitariste. C'est-à-dire que tous les partis politiques aujourd'hui, alors évidemment le Front National c'est le leader de cela, tous les partis politiques sont obsessionnellement rivés à la question de l'islam, du communautarisme, de je ne sais quoi. Chaque fois qu'on voit un voile, on a le sentiment que c'est un acte de guerre larvé ou même explicite contre l'identité nationale. Bon, moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une vraie discussion sur ce sujet, sur le sujet de qu'est-ce que sont ces identités dont on n'arrête pas de nous parler depuis 2003, 2004, 2005.
Mmh. Oui, d'ailleurs, Raphaël Liogier, vous dites dans un récent article, vous dites qu'on est à la limite de la psychiatrie face à l'islam. Il y a une phobie, voire une paranoïa qui s'est installée.
Et vous savez pourquoi je dis paranoïa plutôt que phobie, du point de vue clinique? Parce que dans la simple phobie, on ne postule pas l'intentionnalité maligne de l'objet de notre peur. Alors que dans la paranoïa, on suppose que celui qui nous fait peur a une intentionnalité maligne. Et on voit bien qu'avec les musulmans, on est passé de la phobie, qui existait déjà en 2002, 2003, 2004. Vers 2005, les discours sont différents. On postule que le musulman est plus fort que nous et veut se mettre à notre place. On n'avait pas postulé avant, ce qu'on ne voyait pas avant. Et là, c'est vraiment la paranoïa. Et la paranoïa, c'est quand on a un problème narcissique, donc un problème d'identité, du point de vue clinique. C'est pour ça que je dis ça.
Et ça se soigne comment alors?
Ah ben, c'est très difficile parce que c'est émotionnel. Donc les débats qui sont un peu trop rationnels fonctionnent au premier degré. Si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand j'explique ce que je suis en train de vous expliquer, je suis persuadé qu'une grande partie de vos auditeurs pourraient dire « Bon, oui, bien sûr. » Mais en fait, ce qui est intéressant avec l'islam, c'est d'attendre qu'ils disent « mais quand même ». Avec l'islam, on dit tout le temps « mais quand même », c'est-à-dire la partie émotionnelle. « Oui, mais quand même, c'est l'islam. Mais quand même ceci. » Ben, il faudrait travailler sur le « mais quand même » pour aller jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que les apparences sont trompeuses et ne vont pas dans ce sens. Hein. Oui, il y a des attentats avec des gens qui se revendiquent de l'islam, mais il y a des raisons historiques, il y a des raisons socio-historiques. Donc, je pense qu'il faudrait véritablement débattre et peut-être donner plus de place aux leaders musulmans et pas forcément ceux qu'on considère a priori comme modérés et qui du coup nous rassurent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être fondamentalistes, ce que j'explique dans un certain nombre d'articles aussi, mais ils ne sont pas fondamentalistes comme on l'imagine, c'est-à-dire ils sont fondamentalistes au sens des amish, des gens qui voudraient vivre comme à l'époque du prophète, mais dépolitisés, complètement
c'est
dépolitisés.
Ce qu'on appelle les quiétistes, hein, effectivement. Oui,
voilà,
oui,
exactement.
Tout à fait. Oui,
et donc je crois que il faudrait distinguer tous ces domaines, il faudrait réfléchir. Or, aujourd'hui en France, on n'est pas prêt à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on vous explique qu'on va peut-être fermer des mosquées parce que c'est là où ils se radicalisent. Moi, je suis désolé, je dirige un laboratoire où on a travaillé depuis des années sur ces questions et on se rend compte qu'il y a deux phénomènes distincts, une sorte de fondamentalisme qui pose certains problèmes du point de vue de la démocratie, de la citoyenneté, parce que ces gens sont dépolitisés, mais en même temps, c'est les plus grands ennemis de la lutte armée djihadiste.
Absolument.
D'ailleurs, ils sont discrédités par Daesh dans les sites en anglais et en français destinés aux jeunes européens. Donc, je trouve que tout ça est tellement complexe et que finalement, c'est pas seulement complexe au sens de compliqué, c'est complexe au sens d'un complexe psychiatrique.
Merci beaucoup pour ces explications, Raphaël Liogier. On va rappeler le titre de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle « Le complexe de Suez, le vrai déclin français ». Et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau. On vous souhaite une belle soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir.
démonter de rage. Pas de caresse, non. Pas de caresse. Shadow Woman rêve de cohorte, de klaxon, d'escadrilles sans escorte, de profanation, d'accélération. Laissez passer les dames, laissez passer les dames. Avant que ça pète, avant que ça crame, laissez passer madame. Les berlines emballées, les étoiles filantes. Pas d'antidote, non. Pas d'antidote. Shadow Woman rêve de carjacking, d'accident volontaire, de fuite de gasoline, de tonnerre, de tonneau, de boîte noire, de turbo. Laissez passer. Laissez passer madame. Laissez passer les dames. Laissez passer les dames.
Chador Woman, c'est signé Babix. Chaque culture sécrète ses propres mythes fondateurs qui placent l'univers, le monde, les hommes, les dieux, dans des récits proprement extraordinaires. Philippe Bourgeot, professeur émérite d'histoire des religions de l'Université de Genève, nous propose quelques-uns de ces récits. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mythologie médiévale bulgare.
C'est une légende de la création. Dieu, qui est un personnage évidemment tout à fait anthropomorphe d'ailleurs, est en train de créer le ciel et la terre. C'est comme dans la Genèse, au fond, il plane sur les eaux. Et tout d'un coup, il voit son ombre sur l'eau. Il voit son ombre et puis là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Ça me ressemble. Il dit, frère, lève-toi. Mais sa parole est créatrice. Donc, cette image de lui prend corps, devient un être tout à fait réel, entre guillemets. Et Dieu lui donne un nom, Samaël, qui est un des noms du diable. Donc, le diable est l'ombre de Dieu. Le diable est comme le double reflet, un double extérieur à Dieu. Alors que dans des versions beaucoup plus anciennes, qui sont des versions gnostiques et probablement pré-chrétiennes d'ailleurs d'inspiration, c'est un peu différent. Il y a un dieu qui se penche sur la matière première. Cette matière qui est comme une boue humide, c'est aussi aqueux. Et en se penchant, cet être merveilleux voit son reflet. C'est la même histoire que tout à l'heure. Mais au lieu d'en fabriquer quelque chose qui soit son égal, par la parole, non, il tombe amoureux de cette forme. Donc il fait tout à fait autre chose, il ne fait pas un acte créateur, mais il se laisse tromper un peu comme Narcisse, il plonge dans la matière. C'est une forme de chute. Parce qu'au lieu d'être un être purement divin, il va devenir un être un peu matériel. Et ça va causer, pour finir, la création de l'homme. Et il va falloir que l'homme remonte jusqu'à la forme première de cet être avant la chute, avant la séduction de son image. Alors l'opposition de ces deux récits est intéressante parce qu'on voit que dans la forme bulgare, on est dans un vrai dualisme où on a l'opposition du bien et du mal, tranché, bien séparé, Dieu d'un côté, le diable de l'autre. Alors que dans la version gnostique qui préside à la chose, il y a peut-être une forme de dualisme, mais beaucoup plus compliquée. C'est Dieu lui-même qui descend dans la matière. C'est pas, il n'a pas suscité une forme d'opposé égale à lui. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre d'opposition entre le diable et le bon Dieu.
Une chronique de Philippe Bourgeot, préparée par Evelyne Auberçon.
Infotrafic RTS.
Aucune perturbation n'est actuellement signalée sur les routes de Suisse romande. Sur la ligne de ferroutage de la Fourca, le temps d'attente est d'au moins une demi-heure à la gare de chargement d'Oberwald. Sur l'app RTS Trafic, vous trouverez d'autres informations concernant le trafic routier.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Haute fréquence, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Marie-Claude Cudry et Pierre-Yves Moret qui signaient les sujets de cette édition. Merci à Fabien Unenberger pour la traduction, Jean-Claude Gailly pour la réalisation, Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Haute fréquence, on se retrouve dans une semaine avec une émission spéciale en compagnie de Eric Emmanuel Schmitt. Dans quelques instants, il sera 20h sur la première. Les informations suivies de Histoire vivante qui parle de la musique rap. Bonne soirée à tous.